le colonel Amilakhoris, un personnage emblématique pour les Géorgiens, mais aussi pour les Français. C'était le meilleur exemple d'intégration de la communauté géorgienne en France.
Dimitri Amilakhoris, c'est un véritable prince géorgien. Il descend de la famille des Eguenidze, qui est une famille qui a pris naissance au XIIIe, XIVe siècle en Géorgie. Donc c'est une famille à la fois de l'aristocratie géorgienne, mais également une famille de militaires. Il est né en novembre 1906 à Bazorkino, qui est en Lossétie. C'est une province, Lossétie du Nord.
Avec sa famille, ils ont émigré en 1921, lorsque l'armée rouge a envahi la Géorgie, donc quelques années à peine après la proclamation d'indépendance.
Et donc ils sont partis à Constantinople, à Istanbul maintenant, pour choisir après un pays d'accueil. Ils choisissent la France et donc en 1922, toute la famille Amilakhoris arrive dans la banlieue parisienne. C'est le chemin de l'exil, hein. Et le petit Dimitri Amilakhoris, qui a 15-16 ans, le vit relativement mal parce qu'il a véritablement une âme géorgienne, quoi. C'est vraiment un caucasien. Dans son idée, d'ailleurs, on le voit dans un écrit, c'est pour repartir dans 2-3 ans, 4 ans en Géorgie et se réinstaller en Géorgie. Économiquement, ce n'est pas non plus facile, puisqu'ils arrivent pratiquement avec rien, même si la légation de Géorgie aide les ressortissants géorgiens, il y a une communauté qui s'installe, il y a de l'aide, mais il faut travailler. Et le jeune Dimitri va travailler pour aider sa famille. On va le retrouver laveur de carreaux, et on va le retrouver ouvrier à Citroën, puisqu'on est en pleine expansion de l'automobile, donc les usines avaient beaucoup de main-d'œuvre. Et Amilakhoris, à 16 ans, 17 ans, va aller travailler. Il avait des fondamentaux du français, il savait quand même des bases. Toute cette aristocratie géorgienne est très, très cultivée, il faut le reconnaître. Et très vite, il va apprendre le français. Et c'est très vite aussi qu'il va dire à ses parents qu'il veut aller faire la carrière des armes comme ses aïeuls. Il y avait un dilemme, puisqu'il était de nationalité géorgienne. Et à cette période, il était hors de question pour lui de prendre la nationalité française. C'est le fait d'être prince qui fait qu'il peut intégrer l'école de Saint-Cyr directement en 1924. Il est jeune, il a 18 ans quand il attaque Saint-Cyr. C'est le plus jeune de sa promotion. Donc ce qui fait que ces deux années de Saint-Cyr vont être assez dures. Il va sortir en fin de tableau. Hein. Mais peu importe, de toute manière, il ne pouvait atterrir qu'une seule unité. C'était la Légion étrangère. Parce qu'il n'était pas français. Donc on l'envoie à Sidi Bel Abbès, en Algérie. En 1927, il est à Sidi Bel Abbès. Il va se marier avec une princesse, Irène Dadiani, qui est une princesse dont la famille est de la province de Mingrélie, à côté ouest de la Géorgie, et donc il va se marier avec Irène Dadiani, ils auront trois enfants ensemble, et puis là, donc, on arrive en 1939. Ben, le monde évolue, il se dit, à ce moment-là, en Algérie, à la Légion étrangère, qu'il pourrait être formé une unité, ce sera la fameuse 13e demi-brigade de la Légion étrangère, pour aller combattre. On est en septembre 1939, la guerre est commencée, et là, Amilakhoris se porte immédiatement volontaire. Ses chefs voient tout de suite qu'ils ont besoin de ce genre de personnage, donc ils le prennent en effet. Et il y a Kuning aussi qui était au sein de la Légion étrangère, qui lui n'est pas désigné. Kuning qui sera le vainqueur de Bir Hakeim, qui sera un grand personnage par la suite, même politique. Et donc Amilakhoris, avec son sang-froid habituel et deux autres compagnons, vont le faire passer dans le bateau qui va les amener donc, de Oran à Marseille, en passager clandestin. Un peu plus, Kuning n'aurait jamais participé à la Seconde Guerre mondiale, et on n'aurait jamais eu le Kuning que nous on a connu après. Donc ça tient un peu de choses quelquefois.
Amilakhoris, c'est un proche du maréchal Koenig et il a fait une carrière militaire absolument fulgurante. Il était d'abord à Narvik.
La campagne de Norvège qui va donc se passer entre fin avril, mai 40, est une campagne très 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 difficile. Beaucoup de morts, la prise de Narvik avec Amilakhoris, il y a Pierre Messmer, il y a le général Saint-Hilier, il y a plein de gens qui vont devenir célèbres par la suite. Les Norvégiens saluent, remercient les Français de les avoir soutenus, mais à un certain moment, début juin, on demande de stopper les combats et de regagner la France, tout simplement parce que l'Allemagne avait envahi la France et qu'on avait besoin des combattants qui étaient sur la campagne de Norvège en France. Et Amilakhoris s'est vraiment mis dans une grande colère, parce que pour lui, on laissait vraiment les Norvégiens dans la panade. Ce qui sera le cas, puisque une fois que le corps expéditionnaire français et britannique sera parti, les Allemands vont réoccuper la Norvège et vont se venger sur une population norvégienne. La 13e DBLE reprend le bateau pour regagner la France. Coïncidence, le bateau sur lequel Amilakhoris monte s'appelle le Géorgien. Donc une belle coïncidence. Le jour où les légionnaires arrivent en France, ils apprennent que l'armée allemande défile sur les Champs-Élysées, c'est la catastrophe. Donc les légionnaires, on leur demande de défendre la Bretagne. À Milagvary, 6 officiers, ils viennent à Rennes rencontrer le général qui commande la région. Et quand ils arrivent, le général s'est rendu aux Allemands. Et là, les légionnaires se disent, nous, il est hors de question qu'on sache faire prisonnier. Ils repartent sur Saint-Brieuc, ils vont aller sur Saint-Jacques-de-la-Mer, et ils vont prendre un bateau pour rejoindre l'Angleterre. Ils arrivent à Londres le 20 juin, 2 jours après l'appel du 10 juin, qu'ils n'avaient absolument pas entendu. Ils étaient très peu qui ont rejoint De Gaulle au début de la guerre, très très peu. Et l'aventure de la France libre va commencer pour Émile Lagvary. Sa phrase, c'est « ce n'est pas au moment où la France a besoin de moi que je vais l'abandonner. Elle m'a donné énormément, donc c'est à moi de lui donner maintenant. » Parallèlement à son arrivée en Angleterre, Émile Lagvary obtient la nationalité française pour lui, sa famille et ses enfants. Ses chefs voulaient absolument qu'il ait cette nationalité française parce que déjà il allait rejoindre la France libre et pour protéger sa famille également. Donc il obtient la nationalité française, mais il en était très fier.
Il est devenu français, il a fait une carrière militaire absolument fulgurante.
Et donc il va participer dans un premier temps à la campagne du Sénégal et après donc la campagne d'Érythrée en début 1941, contre les Italiens. Et c'est une campagne vraiment très 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 dure qui laissera énormément de traces. Et pour partir en Érythrée, ils montent à bord d'un paquebot qui s'appelle le Neuralia. Et là, sur ce bateau, figure une certaine Suzanne Travers. C'est une aristocrate britannique qui a vécu en France, qui était une grande joueuse de tennis, qui aimait la vie mondaine, mais qui en 39-40 a décidé de devenir infirmière et, au sein de l'armée française. Et pendant la traversée, Suzanne Travers voit ce bel homme, 1m82, svelte, un regard perçant, il pouvait impressionner. Donc il se rapproche et puis il devient amant. Alors ça va durer quelques semaines, puis à un moment ou à un autre, Émile Lagvary va y mettre un terme. Après, elle est désignée pour être la chauffeur de Koenig, elle va devenir la maîtresse de Koenig par la suite. Donc après la campagne d'Érythrée, il arrive cette fameuse campagne de Syrie, où la France libre et les Anglais décident d'attaquer tout simplement parce que l'armée de Vichy en Syrie fournissait des terrains d'aviation et de l'armement aux Allemands. Donc campagne de Syrie, 41, Émile Lagvary, lui, pendant ce temps-là, monte en grade, il est commandant et il va passer lieutenant-colonel. Alors il a la baraka, ça c'est une chose, il a toujours la baraka parce qu'il prend tous les risques, il est toujours debout, il ne met jamais de casque, c'est un formidable combattant, très respectueux de l'adversaire.
Il était de toutes les campagnes d'Afrique du Nord, en particulier à Bir Hakeim, où on sait bien qu'il y a eu un tournant.
On est en 42, campagne de Libye, qui va être la campagne avec la fameuse bataille de Bir Hakeim, où on demande aux Français de tenir une zone qui est totalement au sud de Tobruk, et les Anglais demandent aux Français de retenir les Allemands le plus longtemps possible. Les Français arrivent en février 42, et la bataille est véritablement déclenchée fin mai. Et là, c'est les chars italiens et allemands qui vraiment arrivent sur Bir Hakeim. C'est 30 000 hommes contre 3 000. Donc Émile Lagvary est l'adjoint du site de Bir Hakeim et ils vont tenir pendant 10 jours. Alors on se demande comment ils vont tenir parce que l'aviation les mitraille en permanence, c'est sous les bombes, ils s'enterrent sous le désert. Et à un moment donné, le 9 juin, les Anglais disent aux Français, bon c'est bon, vous pouvez quitter Bir Hakeim, on a pu se dégager, on va en direction d'El Alamein. Donc là, il faut sortir et la sortie du 10 au 11 juin va causer plus de morts que le mois qu'ils ont passé à Bir Hakeim et Émile Lagvary saute sur une mine. Il a toujours la baraka, il n'y arrive rien du tout. Et par contre, il se retrouve à pied, isolé, et qui arrive? Vous avez Suzanne Travers qui arrive en camion, qui a Koenig à côté, et qui récupère Émile Lagvary, qui errait dans le désert, et qui la récupère dans son camion. Dans ses mémoires, il dit, à un moment, je me retrouvais avec mes deux cinglés, mes deux amants, dans le même camion, pour les sauver et les sortir de Bir Hakeim. Donc ils arrivent à se sauver, à un moment, Koenig veut se rendre, parce que Koenig se dit, ça va être une catastrophe, je vais faire tuer tous mes hommes. Lui, dans son idée, il pensait que la sortie de Bir Hakeim, tous ses hommes allaient périr. C'est Émile Lagvary qui a réussi à persuader Koenig de ne pas se rendre. Et puis finalement, Bir Hakeim devient la grande bataille légendaire de l'histoire. Alors, c'est pas une victoire parce qu'on est en retrait, mais c'est une victoire défensive. Émile Lagvary, on sort prestigieux parce qu'il va commander maintenant la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Tout le monde l'appelait Émile Lac. Au sein de la Légion étrangère, au sein de la France libre, c'était Émile Lac. C'était Émile Lac et c'est resté Émile Lac. Moi, lorsque j'ai discuté avec des gens de la Légion, quand ils en parlent maintenant, ou d'autres historiens, ça reste Émile Lac. Le 10 août 1942, Dimitri Émile Lagvary est fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Les hommes qui étaient à côté de lui ont dit qu'il y avait une petite larme qui est tombée du visage de Émile Lagvary au regard de son parcours d'exilé, de son parcours de Seconde Guerre mondiale. Compagnon de la libération, pour lui, c'était la grande reconnaissance. Maintenant, on donne l'ordre à la 13e DBLE d'aller sur El Alamein. C'est en octobre 1942. Amilcar Gvary ne sentait pas du tout cette bataille. Il envoie un texte à Koenig où il dit il n'y a rien de plus con que d'aller faire cette bataille, on va au carnage, parce qu'on n'a aucune protection, on envoie les hommes à l'abattoir, entre guillemets. Bon, il a des ordres, donc il y va. Le 23 octobre à 23h, donc, il envoie le général de la Bollardière dans un premier temps, le fameux général qui a condamné la torture en Algérie par la suite. C'est la première assaut, il fait demi-tour, parce qu'il dit tous mes hommes vont être tués, donc il fait demi-tour. Il rejoint le poste d'Amilcar Gvary. Amilcar Gvary envoie vers 3h du matin une deuxième section, dont Mesmer, sur le mont Imemat. Pierre Mesmer également, à un moment, avertit Amilcar Gvary en disant « Non, on va tous y laisser la peau, c'est impossible d'arriver en haut du mont, on n'a aucune couverture, on n'a rien, on ne peut pas. » Donc Amilcar Gvary décide de faire revenir tout le monde le matin du 24 octobre et donne un lieu de rendez-vous à ses hommes. Il va pour aller voir ses hommes, mais c'est à ce moment-là qu'il y a un obus qui arrive et qui le frappe en pleine tête. Et il décède dans les bras du général Saint-Hilier. Donc il est transporté en ambulance au poste de commandement où est Koenig. Koenig met le corps sous sa tente de commandement. Il est veillé toute la nuit par les légionnaires. Et donc il est dans un premier temps enterré directement sur le site de Mohammed, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aller ailleurs. Et après, son corps sera transféré à la fin de la guerre, à El Alamein, au carré militaire britannique, où il y a un carré militaire français. Et son corps, il repose d'ailleurs toujours à El Alamein, près de ses hommes.